Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un jour de commémoration tragique aujourd'hui en Italie sur l'île de Lampedusa. Le 3 octobre 2013, le plus gros naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île faisait 368 morts. Une tragédie et un choc. 9 ans plus tard, Vito Fiorino, le premier à avoir porté secours aux victimes, a du mal à cacher son émotion. Une émotion qui l'a transformée en moteur pour trouver le nom de tous les noyés, pour leur construire un mémorial et leur dédier une journée du souvenir. Blandine Hugonnet l'a rencontrée à Lampedusa.
Vito Fiorino nous attend devant la gelateria, le glacier qu'il possède dans la rue principale de Lampedusa. Petit catogan poivre et sel, lunettes fumées, le septuagénaire s'assoit en terrasse sur les chaises colorées. « Je vais te raconter l'histoire qui a changé ma vie », annonce-t-il d'emblée, empreint d'émotion. Cette nuit du 3 octobre 2013, il avait décidé de la passer en mer sur son petit bateau de pêche avec des amis.
« 100 mètres plus loin, j'ai vu face à moi 200 têtes dans l'eau qui appelaient à l'aide. On a alerté la capitainerie du port, mais on ne pouvait pas les attendre. On a lancé les bouées, personne n'essayait de les attraper. Ils étaient exténués, paralysés. J'en ai porté un premier sur le bateau, mais c'était difficile. Ils étaient tous recouverts d'essence et presque tous sans vêtements. Ils nous ont raconté qu'ils étaient plus de 500 au départ, mais ils n'étaient pas si nombreux sous nos yeux. Alors j'ai compris qu'il était en train de se passer une tragédie.
À moins d'un kilomètre de la côte, l'embarcation de fortune avait coulé depuis plus de 3 heures déjà, laissée par les passeurs dans l'obscurité. Le moteur qui avait pris feu avait fait chavirer les centaines de Somaliens et d'Érythréens partis la veille de Libye. Les larmes aux yeux, Vito Fiorino retient une colère qui ne l'a jamais quitté depuis ce drame.
Au bout d'une heure, le navire de la capitainerie est enfin parti du port. Mais ils ont refusé de se charger de nos rescapés. J'ai vu les autres couler vers le fond. Certains s'accrochaient à des cadavres et hurlaient. Mais on a dû rentrer au port. Et à l'arrivée, on a découvert qu'on avait pu sauver 47 personnes. Ça va mal aujourd'hui parce que depuis ces 9 dernières années, on est mal vu par les institutions. Parce que nous osons dire une vérité grave qui met à nu leur défaillance de cette nuit-là. Par indifférence, les forces de l'ordre ont attendu le matin pour secourir ces personnes. Mais pour 368 d'entre eux, ce matin n'est jamais arrivé.
Quelques jours après, les autorités italiennes arriveront à nouveau trop tard lors d'un second naufrage au large de Lampedusa. L'ONU finit par donner raison à Vito Fiorino l'an dernier. L'Italie est tenue responsable du drame. Une expérience traumatique que cet ancien menuisier essaye d'adoucir en maintenant le lien avec ceux qu'il a secouru, en se consacrant désormais aux jeunes aussi pour transmettre la réalité migratoire. Depuis ce drame, 25 000 migrants sont morts en Méditerranée espérant rejoindre l'Europe. Des vies et souvent des identités perdues à jamais. Une peine immense pour Vito qui ne veut pas que soient oubliés les naufragés du 3 octobre.
Je n'acceptais pas que ces 368 morts aient été répartis dans différents cimetières, avec juste un numéro pour les identifier. J'ai compris qu'il fallait que je fasse un mémorial. J'ai été en Suède, où vivent des jeunes que j'ai sauvés, et ils m'ont aidé à chercher leur nom. Il nous en manque 2. Nous avons fait l'inauguration ici ensemble le 3 octobre 2019.
Sur une petite place du centre de Lampedusa se dresse cette installation, une spirale en ferraille avec des centaines de noms gravés, à côté les visages des victimes de la tragédie du 3 octobre 2013. Une date qui marque un tournant pour Vito Fiorino, pour Lampedusa, mais pour l'Italie aussi. Depuis ce naufrage, une journée de la mémoire et de l'accueil instituée par l'État est célébrée chaque année le 3 octobre sur tout le territoire italien.
La guerre en Ukraine et la position toujours ambiguë de la Turquie qui tente de ménager Moscou tout en soutenant Kiev. Une position d'équilibriste qui avait déjà été la sienne lors de l'annexion de la Crimée. Pas de reconnaissance, mais pas de sanctions, tout comme aujourd'hui avec les annexions des 4 provinces de l'est de l'Ukraine. En Crimée, l'attitude d'Ankara est liée au sort de la communauté tatare, minorité turcophone et musulmane. Une importante diaspora tatare est installée sur le territoire turc et elle suit de très près la guerre de ces derniers mois. À Istanbul, c'est un reportage d'Anand Lauer.
Ça, c'est de la terre de Bahçesaray en Crimée. ma patrie. J'en garde pour ceux qui n'ont jamais pu y retourner ou qui n'y ont jamais retrouvé leurs proches, pour en verser dans leur linceul quand ils meurent.
Dans ce petit bureau du centre historique d'Istanbul, tout rappelle la Crimée. Les drapeaux bleus et or, les photos, les cartes, et ces bocaux de verre remplis de terre grise dans lesquels Celal İçten dit « sentir sa mère patrie ». Le grand-père de Celal était né en Crimée, péninsule de la mer Noire, sous domination ottomane jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cédé ensuite à l'Empire russe. Vers 1870, sa famille, des Tatars, un peuple autochtone, musulman et turcophone, migre vers Istanbul, où Celal voit le jour en 1955. Les Tatars de Crimée, dont on estime que 3 millions vivraient dans l'actuelle Turquie, tous ou presque citoyens turcs, ont des souvenirs amers de la présence russe. Les guerres, les exodes successifs jusqu'à la grande déportation de 1944 ordonnée par Staline. Rattachée à l'Ukraine indépendante à la chute de l'URSS, la Crimée est de nouveau sous domination russe depuis son annexion en 2014. Chez les Tatars installés en Turquie, l'invasion de l'Ukraine en février dernier a ravivé des douleurs, mais aussi des rancœurs jamais cicatrisées. Celal İçten.
La plupart d'entre nous en ont voulu à l'Occident, à l'Europe et aux États-Unis. Comment ne pas penser que s'ils avaient réagi autrement en 2014, au moment de l'invasion de la Crimée, Poutine n'aurait pas attaqué toute l'Ukraine en février. Il a bien vu comment le monde s'était tu sur la Crimée. À l'époque, les Occidentaux nous ont dit « Oui, mais il y a le gaz russe, l'Allemagne en a besoin, l'Europe en a besoin, on ne peut pas intervenir. »
Entre la chute de l'URSS et l'annexion de 2014, Celal İçten, qui préside l'association des Tatars d'Istanbul, se rendait tous les 6 mois sur sa terre de Bahçesaray. Après, il n'y a plus mis les pieds. Depuis le début de la guerre, en février, Celal et son association aident à accueillir en Turquie les Tatars qui ont fui l'Ukraine.
L'État turc, qu'il en soit remercié, a affrété des cars pour les amener en Turquie et les installer dans 4 provinces occidentales, Edirne, Kırklareli, Bursa et Eskişehir. Plus de 4000 Tatars sont arrivés comme ça depuis février. Ils ont été logés dans des résidences étudiantes. Beaucoup ont trouvé un travail, inscrit leurs enfants à l'école, surtout à Eskişehir.
Dans cette dernière ville, Hanife Kurtseitova sert de relais aux réfugiés. La jeune femme raconte être en contact avec une centaine de familles qui habitaient pour la plupart à Kiev avant la guerre. Ce sont des femmes et leurs enfants, les pères se battant pour l'Ukraine. Mais ces derniers jours, depuis que la Russie a décrété la mobilisation partielle, les choses ont changé.
Mon téléphone sonne jour et nuit. Ce sont des Tatars qui veulent fuir la Crimée. Mais par où ? Ils ne savent pas, c'est très dur, car les Russes ne veulent pas laisser sortir les hommes. Mais eux ne veulent pas se battre pour la Russie. La police vient les chercher dans les villages, les mosquées, sur les marchés. Sur 100 hommes de Crimée enrôlés dans l'armée, 80 sont Tatars, alors qu'ils ne représentent pas 20% des habitants de la Crimée. Ils ne leur laissent même pas le temps de se préparer. C'est la panique.
La Turquie soutient l'Ukraine politiquement et militairement et dénonce l'offensive russe. Tout comme elle dénonce depuis 8 ans l'annexion de la Crimée, qu'elle n'a jamais reconnue, s'inquiétant publiquement du sort de ses frères Tatars. Mais malgré l'annexion de 2014 et depuis le début de la guerre en Ukraine, Ankara refuse d'infliger des sanctions à Moscou. Il ne faut pas s'en étonner, estime Mita Çelikpala, spécialiste des relations russo-turques.
Erdogan sait qu'il ne doit surtout pas couper les liens commerciaux avec la Russie. La Turquie ne peut pas se passer des énergies importées de Russie. L'économie turque n'y survivrait pas. C'est d'autant plus impossible qu'avec un taux d'inflation à 80%, le pouvoir d'achat des Turcs continue de fondre et les financements russes sont l'une des bouées auxquelles Erdogan s'accroche pour maintenir l'économie à flot. Donc la Turquie ne doit pas se couper de la Russie, elle doit ménager la Russie, chercher un équilibre.
Depuis août, les autorités turques accordent des permis de long séjour aux Tatars d'Ukraine récemment arrivés, comme elles le faisaient déjà pour les Ouïghours de Chine, par exemple. Celal İçten, dont l'association délivre les attestations qui permettent d'obtenir ce sésame, est une fois encore tiraillée entre reconnaissance, réalisme et tristesse.
Nous n'avions jamais demandé ce genre de faveur à l'État turc auparavant, car nous ne voulions pas que les Tatars de Crimée émigrent en Turquie. Notre objectif a toujours été de rétablir une majorité tatare en Crimée, que les Tatars vivent sur leurs terres. mais la guerre actuelle ne nous a pas laissé le choix.
Avant l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine, Djelal avait acheté un petit lopin de terre à Bakhtchessaraï, où il comptait passer une partie de ses vieux jours. Il n'a pas renoncé à ce rêve. En attendant, il s'accroche à ses bocaux de verre remplis de la terre de son grand-père.
В эфире вечерние новости телеканала Дождь. Здесь и сейчас.
8 вечера в Москве, Киеве и Риге. Вы смотрите телеканал.
On votait ce week-end en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie et en Lettonie. Dans ce petit pays balte, le parti du centre est reconduit et le parti historique pro-russe ne sera plus représenté au Parlement. La Lettonie, qui est devenue une terre d'exil pour tous les médias russes indépendants, comme la télévision Dojd, créée il y a 12 ans, notre correspondante dans les pays baltes, Marielle Vituro, a rencontré Tiron Diatko, le rédacteur en chef.
C'est la censure militaire, l'interdiction de prononcer le mot « guerre » qui a forcé toute l'équipe à quitter la Russie. Après 4 mois de silence, Dojd émet de nouveau, sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec des télévisions partenaires.
Pour le moment, c'est absolument le même que nous avons fait à Moscou, en Russie. Les programmes sont les émissions sur les actualités, parce que nous savons que les gens en Russie, ils veulent recevoir l'information dépendante sur ce qui se passe.
Parler de la Russie, mais en se trouvant à des centaines de kilomètres du pays et de son quotidien, est un défi.
Maintenant, c'est le 21e siècle. Il y a l'Internet, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens pour avoir l'information, pour avoir les connexions avec les gens qui vivent en Russie. Et donc, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et nous avons beaucoup de gens qui sont prêts à nous envoyer des informations, nous envoyer des vidéos de Russie.
Même s'il déteste ce mot, Tiron Diatko estime avoir une mission.
C'est notre mission de diffuser l'information, de changer notre pays, parce que nous comprenons que les sondages, ils ne sont pas vrais. 80% des gens en Russie soutiennent la guerre, ce n'est pas vrai. Nous comprenons qu'il y a dizaines de millions de gens en Russie qui sont contre, et c'est notre mission de diffuser l'information pour que ces gens ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a dizaines de millions de gens qui pensent la même chose.
À Riga, Dojd a retrouvé l'équipe du journal de Novaya Gazeta, du média en ligne Medusa, arrivé dès 2015 en Lettonie, et de nombreux autres journalistes ayant fui la Russie pour pouvoir travailler librement. Une nouvelle page de l'histoire des médias russes s'écrit ici, à Riga. Davai, davai.
Et en Bulgarie, les 4e élections législatives en 18 mois. Les votes et les partis sont disséminés entre 7 formations. La question d'une coalition est à nouveau en suspens. Autour des figures du Premier ministre sortant, le réformateur Kirill Petkov, ou de son prédécesseur Boyko Borissov. Mais là encore, c'est la question de l'allégeance ou pas à la Russie qui était au cœur de la campagne. À Sofia, Damien Vodemicharov.
La Russie a toujours eu une grande influence sur la scène politique bulgare, mais les relations entre Sofia et Moscou n'ont jamais été aussi tendues ou aussi tiraillées dans tous les sens par des partis aux agendas clairement opposés. 3 partis représentés au Parlement sont ouvertement pro-russes et s'ils se revendiquent proches de Moscou, c'est pour des raisons historiques, politique, mais aussi économique. Le prix du gaz a beaucoup été débattu durant la campagne, à tel point qu'on a pu parler d'une coalition Gazprom en faveur d'un gaz russe pas cher. Parmi les russophiles de toujours, le Parti socialiste bulgare, qui a du plomb dans l'aile et qui se retrouve en 4e place, un parti qui s'appuie de plus en plus sur son noyau dur, composé surtout de personnes âgées, nostalgiques du régime communiste, ce qui en fait un parti fortement pro-russe. Une surprise, les nationalistes de Renaissance, un parti qui a doublé son résultat de 4 à 10% en moins d'un an et qui veut carrément faire sortir la Bulgarie de l'OTAN. Le tout nouveau parti de l'ancien Premier ministre intérimaire, Stéphane Yanev, qui dépasse à peine la barre des 4%. Yanev avait utilisé le terme du Kremlin, une opération pour désigner la guerre en Ukraine. Il s'était par ailleurs opposé au déploiement de nouvelles troupes de l'OTAN en Bulgarie. Cela dit, le grand gagnant des élections, c'est le parti GERB de l'ancien Premier ministre Boyko Borissov avec 25%. Pendant ses 10 ans à la tête du gouvernement, de 2009 à 2021, Borisov a su ménager la chèvre et le chou en gardant une ligne pro-occidentale, mais en adoptant un ton plus que conciliant envers Vladimir Poutine, n'hésitant pas à aller demander pardon au Kremlin après avoir arrêté un projet de gazoduc russe sous pression occidentale.
Et la question de l'ingérence russe dans les scrutins. Un rapport des renseignements américains estime que depuis 2014, la Russie a dépensé l'équivalent de plus de 300 millions d'euros pour arroser les partis ou les candidats d'une vingtaine de pays, ceux qui défendent les intérêts de Poutine. La politique européenne est-elle concernée ? C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Après le Brexit, beaucoup se sont alarmés des interventions de Moscou pour orienter le vote des Britanniques. Des chercheurs aux États-Unis et à Oxford ont mis en évidence les très nombreux tweets pro-Brexit publiés peu avant le scrutin. Des tweets tous émis par une ferme à trolls basée à Saint-Pétersbourg. Pourtant, quand il est interrogé en 2017, le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, affirme qu'il n'a aucune preuve d'un rôle de la Russie dans le référendum. Not a sausage, pas une saucisse. Une façon so British de dire qu'il y a que dalle comme preuve. Sauf qu'à peu près à la même époque, Theresa May, la première ministre, est beaucoup plus méfiante. Elle dénonce les agissements de Moscou à partir de l'annexion de la Crimée en 2015.
Depuis, la Russie a fomenté le conflit dans le Donbass, plusieurs fois violé l'espace aérien de plusieurs pays européens et organisé des campagnes de cyberespionnage et de piratage informatique. Cela inclut entre autres des intrusions dans des élections, le piratage du ministère danois de la Défense et du Parlement allemand.
Une commission d'enquête du Parlement britannique, publiée en 2018, pointe aussi les liens étroits entre Moscou et un des sponsors de la campagne du Leave, Arron Banks. Il a dépensé plus de 8 millions d'euros pour promouvoir le Brexit. Alors il n'y a aucune preuve indubitable selon laquelle Moscou aurait financé directement un politicien pro-Brexit, mais selon l'hebdomadaire The Spectator, le plus dramatique est qu'il n'y a en fait pas besoin de ces preuves. Il suffit de regarder comment les élites britanniques ont été complaisantes vis-à-vis du régime russe, parce que les oligarques recyclent leur argent à Londres. Ce même rapport des parlementaires britanniques met en évidence le rôle joué par la Russie dans le référendum sur le statut de la Catalogne. Un référendum organisé par les indépendantistes le 1er octobre 2017, mais interdit par Madrid. Les médias officiels russes ont discrédité la démocratie espagnole avec un mélange de reportages un peu biaisés et d'informations totalement bidons. En Italie, la Russie exerce son influence sur le mouvement 5 étoiles et sur la Ligue. Un des proches de Matteo Salvini, son chef, a même négocié le soutien financier de Moscou. Il a été enregistré à son insu dans un bar près du Kremlin.
En mai prochain, il y aura les élections européennes. La nouvelle Europe doit être proche de la Russie. Parce que nous voulons conquérir notre souveraineté en décidant pour notre futur sans dépendre des décisions de Bruxelles ou des États-Unis d'Amérique.
Côté autrichien, une entrevue du même genre s'est retournée contre le vice-chancelier qui a dû démissionner en 2019. Heinz-Christian Strache a été piégé par une femme se présentant comme la nièce d'un oligarque russe, comme le raconte le correspondant de France 24.
Le chef du FPE propose à la jeune femme d'investir massivement dans le quotidien le plus lu d'Autriche afin de lui donner une orientation plus favorable au parti à quelques semaines des élections législatives. Et en échange, Heinz-Christian Strache lui promet l'attribution de marchés publics.
Il y a aussi le Rassemblement national qui a emprunté 9 millions d'euros auprès d'une banque russe. La Russie soutient l'extrême droite européenne et l'extrême droite européenne défend la Russie. Il n'y a pas toujours de l'argent, ça peut être un échange de bons procédés. Ou une conviction sincère et naïve de ceux qui, pour défendre leur indépendance nationale et en finir avec Bruxelles, se mettent dans le giron de Moscou.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.